Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, vous le savez, tous les médias, toutes les formes de culture. Vous allez retrouver évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, mais également Marc-Antoine Lebray en toute fin d'émission. Et d'abord, dans quelques instants, le journal des médias et les audiences du week-end avec Louise Bernard. Il y a du gadin, je ne vous dis que ça. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct pour évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr. Notre infomédia avec un livre politique qui ne ressemble à aucun autre livre politique. Il est signé Paul Larouturou, ex-reporter de l'émission Quotidien passée sur LCI, et du jeune photographe Elliot Blondet. Il dresse un portrait au scanner d'Emmanuel Macron, vu par son entourage, sa bulle, comme ils disent, et c'est passionnant. Puis nos invités, le comédien Guillaume de Tonquédec, à l'affiche d'une affaire française, série de TF1 consacrée à l'affaire Grégory, 6 épisodes qui démarrent ce soir à 21h. Quelle est la thèse de cette série ? Réponse avec son producteur Julien Mandon, qui sera également avec nous. Enfin, l'humoriste Camille Chamou pour son spectacle Temps de vivre, spectacle qui désingue notre monde minuté. Ça va de Proust au Nutella, de Virginie Despentes au sextoy pour les plus pressés. Il y aura aussi son portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Louise Bernard, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
Il va être question de succès, ouais, du positif pour commencer la semaine. Le succès du magazine Elle, celui de Netflix aux Emmy Awards, celui des fictions françaises en 2020. Et puis deux retours, celui d'Objectif Top Chef et d'un podcast très apprécié.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé TF1, le film Chamboule tout avec Alexandre Alamy et José Garcia. 4 400 000 téléspectateurs, bon score pour ce film qui était diffusé pour la première fois, 21,9% de part d'audience. Deuxième, M6 avec Zone Interdite en forme. C'était un document dans les coulisses du Palais de l'Élysée. 2 430 000 téléspectateurs, 12,2% de part d'audience. Et puis troisième, le film Night and Day, qui lui était une rediffusion avec Tom Cruise et Cameron Diaz notamment. 2 270 000 téléspectateurs, 11,1% de part d'audience.
Et les audiences de ce week-end qu'ont regardé les Français d'abord samedi soir.
Encore un succès, un grand succès pour The Voice, édition Star avec 4 320 000 téléspectateurs devant TF1. Encore un échec en revanche pour The Artist sur France 2 qui passe sous le million, ce qui est très rare pour la 2 le samedi soir, 990 000 téléspectateurs exactement.
C'était le télécrochet de Nagui.
Voilà, ce qui classe la chaîne en 5e position seulement derrière France 3 et sa rediffusion du téléfilm Les Mystères des Majorettes, 3 750 000 téléspectateurs. Derrière M6 et sa série Dr Harrow, 1 600 000 téléspectateurs. Et même derrière France 5 qui proposait un nouveau numéro d'Échappée Belle, 1 360 000 téléspectateurs. Bref, dure soirée pour Nagui et France 2 samedi soir.
Alors est-ce que la soirée était meilleure pour France 2 le vendredi soir ?
Alors oui, même si là TF1 a encore raflé la première place avec Danse avec les Stars qui fait un bon retour, 4 330 000 téléspectateurs. C'est 700 000 de plus que la précédente édition et c'est le meilleur lancement depuis 2018. Danse avec les Stars qui a visiblement manqué aux téléspectateurs. Deuxième place pour France 2 qui peut décider compter sur sa série Candice Renoir pour attirer les téléspectateurs. Ils étaient 3 770 000 et puis M6 et sa traditionnelle soirée NCIS attire 2 millions de téléspectateurs.
Culture Média.
On passe au journal des médias à proprement parler avec à la une le succès du magazine Elle avec son numéro consacré à l'Afghanistan.
Oui, en rupture de stock dès son premier jour. Numéro très fort sorti vendredi. Dès le lendemain matin, Elle a dû réimprimer 50 000 exemplaires face à l'engouement. 100 000 avaient déjà été tirés et le numéro restera en kiosque 15 jours au lieu d'une semaine. Sur cette une toute noire, on y voit une femme vêtue d'un hijab noir. Seuls ses yeux bleus perçants vous fixent. Elle s'appelle Malalaï et elle témoigne dans son numéro comme d'autres jeunes femmes à visage découvert et sous leur vraie identité. Des jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui donc n'ont connu que la liberté et qui là racontent leur quotidien à Kaboul, à la reporter Avad Jamshidi et se laissent photographier par Philippe de Poulpiquet. Un quotidien bouleversé par le départ des Américains et le retour des talibans. Un numéro qui rappelle celui de 2001 où elle avait mis en une femme afghane en burqa, le sort des femmes afghanes. C'est un sujet dans l'ADN du magazine qui tenait à cœur à sa directrice Véronique Philippona.
C'était un pari en fait, c'est vrai qu'on est un magazine de société, on est un magazine féminin, on est avant tout là aussi pour raconter ce qui se passe et raconter le monde. C'est un bon exemple de couverture sur un sujet de société difficile et qui intéresse effectivement je pense, notre lectorat, mais aussi au-delà. Donc, il faut garder effectivement cet ADN qui nous est cher. C'est-à-dire que la lectrice, elle attend de nous beaucoup de choses, mais elle nous attend aussi sur les sujets de société, comme par exemple, cette semaine, on a fait un grand papier sur Éric Zemmour et les femmes. La semaine dernière, on a fait une grande enquête sur le MeToo dans le mannequinat avec le procès de Gérald Marie. C'est des sujets qu'on suit et sur lesquels on ne veut rien lâcher, quoi.
On se doit d'être la voix de notre pays. Voilà ce que disent ces femmes qui ont peur d'être effacées, de ne plus être entendues. Il faut lire leurs témoignages courageux dans ce numéro de Elle. Et s'il n'est plus dans votre kiosque, les réapprovisionnements arrivent d'ici mercredi.
C'est tout frais. C'est tombé cette nuit aux États-Unis les récompenses aux Emmy Awards.
Prestigieuse cérémonie, une sorte d'Oscar des séries télé. And the winner is... Netflix, dont les séries parviennent pour la première fois à remporter des statuettes dans les catégories les plus prestigieuses. À elle seule, The Crown, dont vous reconnaissez peut-être le générique, repart avec 7 prix, dont meilleure série dramatique, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleure réalisation, meilleur scénario. C'est simple, la série inspirée de la famille royale britannique remporte toutes les catégories dans lesquelles elle a été nommée. Joli palmarès. Autre série Netflix, Le Jeu de la Dame, désignée meilleure mini-série. Et puis l'autre grande gagnante de la soirée, c'est la série Ted Lasso d'Apple TV+, 4 récompenses. Une série humoristique sur un entraîneur de foot américain qui prend la tête d'une équipe de foot anglaise.
Ouais, série dont on avait dit beaucoup de bien ici la saison passée dans Culture Média. On continue de parler série, mais en France cette fois, Louise, les fictions les plus regardées à la télévision française sont toutes françaises.
Oui, c'est une première depuis plus de 10 ans. Aucune série étrangère dans le top 20 des fictions les plus regardées en France en 2020 à la télévision. Étude du CSA réalisée chaque année depuis 2009. Et autre nouveauté, le classement est en majorité composé d'œuvres de France Télévisions. 13 fictions au total sur 20, au détriment de TF1. Même si TF1 occupe tout de même la première place du classement grâce à sa fiction adaptée de la vie de Grégory Lemarchal, Pourquoi je vis. Et voilà, je vous fais une petite confidence. Ce matin, je pense que je peux m'avancer sur le classement de l'année prochaine. Je vous donne déjà le premier du classement. Je pense que ce sera TF1 encore avec HPI, qui avait quand même fait plus de 10 millions de téléspectateurs sur un de ses épisodes.
Je parie pas contre vous, je parie avec vous. Je suis sur du même avis.
Ce serait quand même audacieux sinon.
On passe sur M6 pour le retour, non pas d'une fiction, mais de l'émission Objectif Top Chef, tout à l'heure.
Une nouvelle saison où Philippe Etchebest met en compétition des jeunes cuisiniers prometteurs pour dénicher le candidat qui pourra intégrer, ou là d'ailleurs, qui pourra intégrer la compétition Top Chef. Philippe Etchebest qui prend toujours autant de plaisir à animer cette émission.
À la fois d'amener mon savoir-faire, de former, d'accompagner des jeunes. Je trouve que c'est très valorisant. Puis d'apprendre des choses de ces jeunes. Parce que finalement, moi aussi, comme ils ont une vision très large aujourd'hui de la cuisine, et puis avec les réseaux sociaux, avec Instagram, moi, il y a des choses que je passe à côté. Hein, et justement, je découvre des trucs qui sont assez intéressants et qui me font réfléchir justement sur la cuisine, qui me permettent aussi d'être toujours alerte. Ça, c'est cool.
Oui, mais voilà, depuis la création d'Objectif Top Chef, seul un poulain de Philippe Etchebest a ensuite remporté l'émission Top Chef. Alors, il a cherché comment il pouvait mieux préparer ses candidats et il a trouvé. C'est la grande nouveauté de la saison. Il a créé l'Académie Top Chef. 108 candidats au départ, seuls 9 intègre l'académie pour une préparation intensive avec des épreuves mythiques de Top Chef, comme la boîte noire ou la guerre des restaurants, des épreuves face à des chefs aussi. Une préparation technique, mais psychologique aussi.
Je les avais bien prévenus que ça allait être difficile, ça allait être un entraînement commando, parce que pendant 15 jours, je ne les ai pas lâchés. Ils étaient 24 heures sur 24, ensemble. Et à chaque fois qu'ils croyaient qu'ils avaient fini, j'allais les voir dans leur petite salle. Là, je dis, allez, on y va, c'est pas terminé. Je les ai rincés, quoi. Mais c'était voulu justement parce que là, il fallait que je voie qui allait tenir. Parce que Top Chef, c'est ça en fait. C'est un marathon, un ascenseur émotionnel qui est très très fort. Et au-delà de la technique qu'on peut avoir dans cuisine et capacité de bien cuisiner, il faut avoir un gros mental. C'est ce qui permet de tenir sur la durée. Mais ils étaient tellement contents. À chaque fois que je leur annonçais les épreuves, je voyais les yeux qui brillaient. Mais vraiment, oh, incroyable! Ils avaient vraiment, pour le coup, l'impression d'être dans Top Chef, de vivre l'expérience Top Chef. Ça qui était génial.
L'entraînement commando de Philippe Etchebest, c'est à voir tout à l'heure dans Objectif Top Chef à 18h40 sur M6.
Et puis, autre retour aujourd'hui dans un tout autre genre, celui d'un podcast au cœur de l'histoire.
De retour avec une nouvelle voix, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui désormais incarne ce podcast d'Europe 1 Studio. Journaliste, auteur, spécialiste de l'histoire que vous entendez aussi dans Historiquement Vôtre, aux côtés de Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Pour débuter cette nouvelle saison, j'ai eu envie d'évoquer pour vous Catherine de Médicis.
Elle proposera chaque semaine deux grands récits inédits à partir d'aujourd'hui, des récits sur des grandes figures de notre histoire, hommes et femmes au parcours d'exception. L'épisode d'aujourd'hui est déjà disponible sur les plateformes d'écoute, sur le site ou l'application europe1.fr. Et puis après, rendez-vous tous les lundis et jeudis pour les autres récits inédits.
Merci beaucoup, Lise Bernard, j'adore cette musique. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain
pour
un nouveau journal des médias, Louise. Dans un instant, notre info média du jour avec un livre politique qui ne ressemble pas aux autres livres politiques. 4 ans et demi de mandat d'Emmanuel Macron résumé par 14 personnes qui l'ont connu de très très près. Galerie de portraits à tous les sens du terme. L'un est photographe Eliott Blondet, l'autre est reporter connu du grand public. C'est Paul Larouturou qui était dans Quotidien la saison passée. Ils seront avec nous pour leur livre Élysée confidentiel. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est un livre politique qui ne ressemble pas aux autres livres politiques. À moins de 7 mois de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, ce livre dresse un premier bilan avec des portraits de ceux qui ont été ou qui sont toujours proches du président de la République, pas en off, comme c'est souvent le cas dans ce genre de littérature, mais à visage découvert, à tous les sens du terme, car c'est également un livre de photographie. Autre singularité, c'est chapitre par chapitre que l'on avance, au gré des intervenants célèbres ou totalement inconnus, mais tous issus du premier, voire du second cercle autour d'Emmanuel Macron. Il tente, ce livre, de définir la bulle Macron, selon le terme de la préface. Une bulle, c'est fermé, ça flotte dans l'air, mais cela peut aussi exploser. Bonjour Paul Larouturou.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste, ancien reporter de l'émission Quotidien aujourd'hui tous les soirs sur LCI avec Ruth Elkrieff. Eliott Blondet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes photographe de presse pour l'agence Abaca Presse et vous signez tous les deux donc ce livre Élysée confidentiel. D'abord, comment est né ce projet et pourquoi? Et pourquoi des images? Je vais commencer par vous, Eliott.
On s'est retrouvé avec Paul avec un vrai souci, c'est qu'on n'arrivait pas à définir qui était Emmanuel Macron. Et on avait besoin d'écrire, d'essayer de raconter nous ce qu'on voyait à force de nos reportages. Et ce qu'on a vraiment voulu raconter, c'est ces bulles qui s'entrechoquent, qui se rencontrent, à la fois des bulles de gens qui sont proches, des bulles de politique, mais aussi parce que couvrir un quinquennat, ce n'est pas que couvrir un homme politique, c'est aussi couvrir la rencontre avec les Français. Donc Patrick de Pergla, par exemple, le seul gilet jaune que Emmanuel Macron ait reçu, ou Jonathan Jahan aussi, avec la fameuse petite phrase de traverser la rue.
Vous êtes parti dans l'idée tout de suite de faire un livre illustré.
Tout de suite, c'est une belle rencontre avant tout avec Eliott Blondet. On fait partie de la presse présidentielle, de ceux qui suivent le président Macron partout en France et un peu dans le monde. Et un jour, je le raconte dans la préface, dans l'introduction, c'était très simple, c'était le 13 février 2020. On a parlé, on est parti de cette frustration en soirée ou partout n'importe où. On n'arrivait pas à répondre simplement à comment est le président Macron. Et voilà, Eliott, et moi j'adore son travail, je vous invite tous à le suivre sur Instagram. Il est incroyable, on a parlé, on s'est dit qu'on allait faire un truc générationnel. On a en moyenne d'âge 30 ans.
Ouais. tous les 27 ans et 34 ans.
Exactement.
27 ans pour Eliott et 34 ans pour Paul Larouturou.
Exactement. Et voilà, et on a envie de faire un truc pédagogique aussi, c'est-à-dire que vraiment, les personnes qui nous lisent, je pense que dès 16 ans, c'est compréhensible comment ça marche le pouvoir de l'intérieur, et on a eu envie de donner la parole de façon équilibrée. Normalement, merci de nous avoir lu, merci pour ces mots, mais normalement, vous ne pouvez pas nous dire si c'est un livre sympa ou pas sympa pour le président Macron.
Les deux.
C'est les deux. Voilà.
Les deux.
Et donc, il y a des gens
et c'est même les deux à l'intérieur même de chaque chapitre.
Exactement.
C'est que chaque intervenant, ou presque, fait à la fois des critiques et passe de la pommade.
Exactement. À la fois, voilà, Christophe Castaner nous a fait confiance et nous a fait des vraies confidences. On en reviendra si vous le désirez, si Baptême Diaye aussi. Et puis inversement, tu en parlais, Eliott. Évidemment, le gilet jaune qui dit aussi du bien. Aurélien Taché, qui est, comme on le sait tous, un député qui a été élu avec la vague Macron et qui aujourd'hui est très 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 critique sur sa politique, sur la pauvreté. Et là, qui vraiment se lâche, quoi.
Parfois, c'est vous qui êtes gentil avec eux. Par exemple,
bien
Benjamin
sûr.
Griveaux.
Oui.
Vous ne parlez pas de l'affaire qui porte son
Exactement.
Nom, malheureusement.
Oui.
Il dit d'ailleurs, normalement, l'affaire porte le nom du coupable et là,
oui.
il porte le nom de la victime.
Tout
vous
à
en
fait.
Parlez pas, et
oui.
vous avez raison, je vous donne totalement raison là-dessus. Mm-hmm. Par contre, j'étais étonné, dans le portrait de Christophe Castaner,
oui.
vous racontez pas les shots en boîte de nuit avec des femmes qui ne sont pas la sienne. Pour quelle raison?
Parce que, alors, je le revendique, parce que nous, on est journalistes.
Parce que c'était pas écrit. J'étais très étonné
oui.
que ça ne figure pas.
Alors, on revendique une forme d'empathie, mais aussi bien avec le gilet jaune qu'avec Christophe Castaner, en l'occurrence. Et là, en l'occurrence, on est journaliste politique.
Ouais.
Moi, l'adultère éventuel ne m'intéresse pas. On n'est pas là pour parler de la vie privée, on est là pour parler
non,
de la politique.
La question, c'est pas l'adultère.
Oui.
C'était des shots de vodka un samedi soir, alors
c'est
qu'il y avait
vrai.
Les gilets jaunes.
C'est en ça
qu'il y a
mais
une casserole.
Mais vous avez raison, mais pareil pour Sylvain Diaye, c'est à moi qui ai dit j'assume de mentir pour protéger le président quand je travaillais à Quotidien à l'époque. Ça n'est
ouais.
pas dans le livre. Pourquoi? Parce qu'on a mis que des anecdotes nouvelles et inédites. Et tout ce qui a déjà été publié ou écrit, moi, sur l'affaire Griveaux, je n'ai rien de plus à ajouter. Je ne parle pas de l'affaire Benalla non plus, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans le coffre-fort.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Pardon,
ma question, c'est que quand vous parlez de Benjamin Griveaux, oui. vous dites volontairement, je oui. ne parle pas de cette affaire.
Oui.
Mais cette explication n'est pas donnée pour les autres. C'est ce qui m'a étonné.
D'accord. Eh bien, merci pour ce retour. Voilà. Je ne sais pas comment répondre.
Les photos, c'est du stock, elles sont toutes nouvelles. La photo de Sibeth Ndiaye, je vais la montrer sur Europe1.fr, elle est absolument saisissante, presque en tenue de boxeuse. Tout a été nouveau. Cette photo, elle vient d'où?
Alors, cette photo, elle a été faite pour le livre. Donc, le livre est composé de photos qui ont été faites durant le quinquennat. Je pense qu'avec Paul, on s'amuse à compter nos accréditations et c'est à peu près 384 événements sur le quinquennat.
Tu me bats là-dessus.
Et aussi des photos faites pour le livre. Donc, pour la petite anecdote, cette photo, elle a été faite pendant la période de confinement. Donc, c'était très compliqué, des fois, de se rencontrer. Et en fait, je pense que le Covid a été très intéressant pour ce livre parce qu'il nous a permis une certaine intimité avec les personnages. Et typiquement, Sibeth Ndiaye, ce soir-là, on l'a rencontré un soir au QG LREM. Et il était, je pense, 22h30. Et il y avait une forme de... Je pense qu'il y avait une forme de... On se faisait peut-être confiance. Je pense que...
Mais là, elle va ressortir cette photo.
Bah
elle,
oui,
comme si elle allait boxer avec ses gants et sa robe à fleurs.
Mais je pense que c'est dans le livre aussi. La boxeuse, ça correspond au texte.
Et je pense que c'est parce qu'on a suivi cette ligne de crête avec Paul d'être à la fois ni à charge, ni à décharge, mais aussi d'avoir la confiance de nos personnages qui savaient que quoi qu'on fasse, on tomberait dans l'image d'information et pas dans l'image d'illustration.
On est totalement dans la confiance, c'est le mot que je relève. Certains témoins font des sacrées confidences, par exemple Manuel Valls, ancien Premier ministre, qui vous fait, page 20, une confession ahurissante, personnelle et sincère, je vais le lire. C'est Valls qui parle, hein, et il avait tout perdu, parce qu'il était Premier ministre, il a raté son... Il n'a pas été élu député, il voulait la mandature d'LREM qu'il n'a pas eu, s'est retrouvé seul en race campagne.
Ça marche pas non plus à Barcelone, il
et
a tout perdu.
Et il dit, la différence entre Chirac, Sarko et moi, c'est que dans des circonstances très différentes, Sarkozy et moi, on perd. Chirac devient Premier ministre, bingo. Emmanuel devient président, bingo. Sarkozy fait une traversée du désert, pas bingo. Et moi, pas bingo du tout. En plus, je ne subis pas une simple défaite politique. C'est mon univers qui s'écroule, le parti socialiste qui disparaît. C'est rare un aveu de faiblesse comme celui-ci, et surtout de la part de Manuel Valls.
Mais c'est là,
comment vous l'avez obtenu ?
Eh bien, en fait, parce que ce chapitre d'introduction qui s'appelle « Trahison au pluriel », on commence longuement par détailler la trahison factuellement d'Emmanuel Macron, qui a trahi très scientifiquement François Hollande. Il la raconte, il est bien placé, il était Premier ministre. Mais évidemment, on lui a dit « Ok, vous racontez Emmanuel Macron, mais racontez aussi votre trahison. Vous aviez promis de soutenir le candidat de la primaire, vous ne l'avez pas fait. » Et donc, c'était un peu le deal. C'est-à-dire « Ok, on écrit tout ce que vous voulez sur Emmanuel Macron, mais en revanche, faites preuve d'autocritique. » Et c'est ce qu'il fait, effectivement, dans ce livre, comme vous le soulignez.
Ce qui n'est pas la moindre de ses qualités. Ce livre traite aussi du rapport du président Macron avec les médias. On est une émission média, pas une émission politique. Ça tombe très très bien. Paul Larouturou, Elliot Blondet sont nos invités. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Élysée confidentielle, ça pourrait presque être un beau livre parce que c'est illustré, c'est du très très beau papier et pourtant c'est un livre politique. C'est signé d'Eliott Blondet, vous êtes photographe, Paul Larouturou, vous êtes journaliste et vous qui signez ces mots et ces images. Je ne retrouve plus la question que j'avais repérée. La voici. Vous écrivez, l'absence organisée, délibérée et répétée des journalistes dans des déplacements publics importants restera comme le grand problème médiatique du quinquennat. En quoi est-ce un problème médiatique? C'est quoi le souci?
C'est pas, je pense, un point corporatiste de gna gna gna, j'ai pas pu assister à quelque chose. Moi, je fais partie des gens, comme Elliot, on a eu la chance de couvrir énormément le quinquennat Macron, de l'interviewer très abondamment, donc c'est vraiment pas...
Juste un mot, les confrères vous envoient les presse, parce que Emmanuel Macron, à un moment donné, ne parlait qu'à l'émission quotidienne.
J'ai eu la chance.
Et pas aux autres.
Ça, ça s'est bien passé pendant la campagne, pendant le début du quinquennat, effectivement. Donc c'est pas du tout un gna gna gna, j'ai pas eu accès à lui. C'est que, de façon, je fais la liste dans le chapitre sur Laurence Benamou à la fin, ma consoeur, de l'AFP, je fais la liste de tous les déplacements où beaucoup de journalistes pensent que la presse aurait dû assister. Elle en a été exclue quelques exemples. Cette visite si importante au moment où on pensait tous que la chloroquine pouvait marcher sur le Covid à Marseille, 3 heures dans le bureau du professeur Raoult avec le professeur Delfrécy, on sait avec le recul que c'était hyper important. Il n'y avait pas un journaliste. Quand il allait en maraude discuter avec les personnes à la rue, il y avait sa photographe officielle, Soazic de la Moissonnière, qui est très douée dans son genre, mais elle fait de la communication. Et donc il y a une façon délibérée à certains moments, d'exclure la presse pour avoir juste leur Facebook Live, leur photographe, et ça, c'est un problème démocratique.
Quelle attitude vous aviez vous-même, Elliot ?
Mais juste pour rebondir sur ce que disait Paul, moi je trouve que, hormis le fait que ce soit un problème journalistique, je pense que c'est presque un problème historique. Dans le sens où, en fait, il va manquer des documents sur ce quinquennat. Il manquera des informations. je pense que ça, c'est peut-être un vrai problème, même pour nous journalistes qui sommes censés donner l'information aux gens.
Mais Sibeth Ndiaye vous racontait que lors du premier conseil des ministres, elle est conseillère presse à l'Élysée, elle dit « Nous, on veut principalement passer par les réseaux sociaux. Ils en sont revenus ou est-ce que ça continue ?»
On va rester, essayons d'être subtils, ça s'en va et ça revient. Quoi. Ouais. J'ai pas fait de tout petit rien, mais c'est vraiment cyclique. Il y a des moments où c'est open bar, où ça dépend de son humeur aussi. Mmh. Il y a des jours où le président a envie de parler à la terre entière, mmh. et puis il y a des jours où clac, il se resserre et où c'est impossible de le pénétrer, de pénétrer sa bulle plus exactement pour être plus précis. Après, il y a des moments où il copie les codes des reportages, la cellule web de l'Élysée, et on a l'impression que c'est un reportage, alors que c'est, pardon d'être désagréable, mais c'est de la propagande politique. Et ça, vraiment, c'est un vrai souci qu'il faut qu'on se pose dans le rapport de force entre le pouvoir et le contre-pouvoir.
Alors, je parlais du portrait très réussi en images de Sibeth Ndiaye, portrait très réussi avec les mots signés par vous, Paul Larouturou. Vous dites à propos d'elle que son principal punching ball, ou son sparring partner en fonction des jours, c'est le bandeau BFM. Vous dites le bandeau BFM, c'est-à-dire les petits mots qu'on voit écrits en bleu pendant qu'on regarde les infos sur la chaîne, est devenu un enjeu crucial de la vie politique française. Vraiment.
Tu veux y aller ?
Ouais.
Oui, effectivement, donc ça, là, effectivement, ça peut être BFM.
Non, pas de moi. Moi, je pensais que c'était accessoire.
Ah, pas
c'est
du
pas
tout.
Un enjeu
ah,
crucial.
Pas du tout, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne d'information sans le son.
Ouais.
C'est allumé dans énormément d'endroits, donc elle le raconte. Elle dit même au ministre, j'en ai marre.
Je vais le dire, parce que c'est absolument passionnant, la confidence qu'elle fait. Raconte Sibeth Ndiaye, à la fois, elle assume, elle le regrette. Elle dit, j'en étais quand même arrivé à conseiller au ministre de parler par séquence de 6 mots, parce que c'est ce qui rentre dans le bandeau BFM, ce qui est une folie. On se fait suer avoir un joli langage pour se faire réduire à une phrase digne d'un enfant de 4 ans. C'est une logique que je refuse. Donc j'ai souvent appelé la chaîne, j'engueulais le mec en plateau pour que ce soit changé et quand ça ne suffisait pas, je pouvais monter plus haut. Je n'aurais jamais vu les choses sous cet angle.
Rien à rajouter. Nous-mêmes, ça nous a surpris. On ne pensait pas, comme vous, on ne pensait pas que c'était si important. Mais c'est le bandeau des chaînes d'infos, c'est absolument primordial dans la communication politique contemporaine, même plus important que la presse écrite désormais.
Et l'autre Blondet, vous avez photographié des personnes qui s'exprimaient pour la première fois, des journalistes, moi des visages que j'ai découverts, Arnaud Jolens, le conseiller image du président. C'est facile de photographier un conseiller image qui lui-même doit contrôler toutes les images.
Oui, justement, c'est ça qui est fascinant. Et moi, ce qui me fascine avec Arnaud, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout poser, c'est un homme de l'ombre, un peu comme les photographes aussi. Et comment on arrive à faire un portrait en mettant une information dedans sans que ce soit un portrait posé. La photo, par exemple, avec le maître, c'est un événement qui s'est passé comme ça. Et je trouvais qu'il résumait...
Après, ils vous ont demandé des comptes, ils vous ont demandé à relire vos propos, ils ont demandé à voir les images, un contrôle ou pas du tout ?
Rien, du tout.
On a une liberté totale.
Paul Larouturou, je vais revenir sur ce que vous avez fait et sur ce que vous faites maintenant. Une de vos interviews pour Quotidien a beaucoup tourné dans les médias ces derniers jours. Elle remonte à juin 2020, c'était à Paris, c'était quelques jours avant les élections municipales. Vous interrogiez Anne Hidalgo, la maire de Paris, sur ses ambitions présidentielles. Elle nie, on l'écoute.
Un livre qui vient de sortir sur cette folle campagne des municipales, Emmanuel Macron parle de vous. Il dit que si vous êtes élu, réélu dimanche à la mairie de Paris, vous allez devenir une redoutable candidate à la présidentielle en 2022. Êtes-vous redoutable? Êtes-vous candidate?
S'il le dit, non, surtout pas. Je considère qu'il y a un endroit où on peut agir aujourd'hui, qui est un endroit très stratégique, c'est celui des villes.
Vous
pouvez archiver. Alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair. À bientôt.
Voilà, elle est très claire, elle vous sourit, mais quand même, elle est candidate.
Exactement.
Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence ?
Eh ben déjà que j'ai eu la chance de travailler 7 ans pour Yann Barthès et Laurent Bon à Bangoumi et que j'ai appris l'amour de la boîte à archives.
Ouais.
Et que celle-ci, effectivement, elle est un peu collectaire. Non, elle a répondu qu'elle avait changé d'avis et que la France avait besoin d'elle, en résumé. Non, je pense qu'on est là, nous, c'est le point commun avec Elliot, on est sur le terrain, on est reporter, donc on est là pour souligner les contradictions des politiques et ils sont nombreux à en avoir.
Comment ça se passe sur LCI ? Premier bilan auprès de Ruth El-Krieff dans son émission Ruth El-Krieff 2022.
Bah, franchement, moi, je me sens ultra privilégié. Vraiment, le projet de Thierry Tuilier, Fabien Namias et Adrien Jeanne, qui est chef du service politique de la CETF1, c'est très simple, je m'éclate, quoi. Bon. Tous les soirs en direct à 20h25, j'étais avec Éric Zemmour samedi soir, avec Sandrine Rousseau hier soir. Vous allez voir ce soir.
Vous allez nous raconter ce qu'on va voir. Déjà, ouais. Vous êtes un peu déçu le Parisien. Vous avez lu le papier du Parisien quand ça a démarré.
Le premier jour.
Déception, écrit Michael Zoltobroda, quand l'ex-reporter Yann Barthès déroule le Zemmour Show. Ouais. Si Paul Larouturou pose les bonnes questions, bravo, il n'obtient pas de bonnes réponses. Un exercice répété sous forme de copier-coller une heure plus tard.
part par le même journaliste sans convaincre davantage. Que lui répondez-vous ?
Alors déjà, quand on fait un métier public, il faut accepter d'être critiqué, c'est le principe. Ensuite, confraternellement, le premier soir, bon, effectivement, je reconnais que sur la forme, j'étais stressé. Sur le fond, je revendique cette interview d'Éric Zemmour. Et enfin, sur les chaînes d'info, il y a quand même un truc important, c'est qu'il faut savoir qu'en deux heures, le public n'est pas le même et que le public qui me regarde en direct à 20h35 n'est pas le même de 21h40.
Juste un mot, vous étiez avec Sandrine Rousseau hier, vous étiez la seule caméra.
Oui, ça comment nous a beaucoup, beaucoup étonné. Avec mes confrères de quotidien, on était deux pour être précis, mais ça m'a stupéfié. Donc, on était à son QG tout seul. Il y avait, je ne veux pas citer de confrères, mais il y avait Gary Bertz, et c'est tout.
Des jours.
Et on était tout seul, et ça nous a stupéfait. Et ce sera mercredi soir le débat décisif Sandrine Rousseau contre Yannick Jadot, présenté par Hôtel Krief à 20h45 sur LCI.
Merci de l'avoir dit. Je rappelle, Élysée Confidentiel, c'est signé par vous, Paul Laroutourou, et les images absolument splendides d'Eliott Blondet, c'est publié par Flammarion.
Merci
d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, on va parler de la nouvelle série qui démarre ce soir sur TF1, ça s'appelle Une affaire française. Ça retrace l'un des plus grands mystère judiciaire français jamais éclairci, l'assassinat du petit Grégory. Nous serons avec le comédien Guillaume de Tonquédec qui joue un gendarme, donc normalement il devrait savoir, et le producteur Julien Mandon, lui aussi normalement devrait savoir. Et pourtant non, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Guillaume de Tonquédec, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes comédien, le grand public vous avez découvert dans Fait pas ci, fait pas ça, là c'est tout à fait autre chose. On vous a vu au cinéma, dans Le Prénom, César du meilleur second rôle, vous êtes à l'affiche du film délicieux avec Isabelle Carré, toujours en salle, mais votre actualité, c'est Une affaire française, série de TF1 consacrée à l'affaire Grégory, 6 épisodes, ça démarre ce soir à 21h avec un sacré casting, Blandine Bellavoir et Guillaume Guiz qui jouent les époux Villemain, Michael Youn, Gérard Jugnot, Laurent Stocker, Michel Villermo, je ne peux pas citer tout le monde, et nous sommes avec le producteur, un des coproducteurs, Julien Mandon, bonjour.
Bonjour.
Julien Mandon, il y a eu déjà 2 séries françaises, 1 série Netflix. Pourquoi ce nouveau projet ? Qu'est-ce qui a convaincu TF1 de s'intéresser à nouveau à l'affaire Grégory ?
Ce qui a convaincu, ce qui m'a convaincu, moi et mon associé avant tout, et puis ce qui a convaincu TF1, c'est le traitement qui était proposé par les deux créateurs de la série, Jérémy Guez et Alex Mia, qui était un traitement très choral, donc multi-points de vue, avec aucun parti pris. C'était un traitement qu'on trouvait moderne. Et par ailleurs, il y avait 2 axes qui étaient très développés. C'était l'acharnement médiatique ou ouais. Le traitement médiatique de l'affaire, qui était pour nous le début de l'affaire en continu, et l'impact des médias sur même le traitement judiciaire. Et c'est allé jusqu'à ce que la France prenne position en fait pour un clan ou l'autre. Et puis le deuxième axe, c'était justement cette débâcle judiciaire. C'est ça qui nous intéresse.
Alors, pardon de dire ça, mais vous prenez quand même position dans l'affaire Grégory dès le début du premier épisode, puisqu'il y a des gens qui ont accusé Christine Villemain, elle était mise en examen. Je me souviens du texte de Marguerite Duras qui disait « Si Christine Villemain a tué son enfant, elle est sublime, forcément sublime. » L'expression est restée, elle a tenu 4 décennies. Et dès le début du premier épisode, on voit que vous avez une thèse qui est que Christine Villemain n'est pas la meurtrière, puisque c'est pendant qu'elle fait son repassage que le petit Grégory disparaît. Donc ça ne peut pas être elle.
Mais ça, c'est avéré. Elle a été disculpée.
Oui, je
donc
sais.
Ça, c'est un fait.
Mais il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord avec cette thèse.
Oui, mais là, la justice est passée. Malheureusement pour eux, ils ont tort.
Donc, en gros, vous laissez tout ouvert dans ce qui a été accepté par la justice.
Exactement.
On va entendre la bande-annonce.
On vient de recevoir un coup de fil du corbeau. Il a dit qu'il allait s'en prendre à ton fils.
Grégory ? Grégory !
C'est quoi ce foutoir ?
C'est les journalistes.
Laissez-nous nous recueillir en paix, vous foutez le camp merde !
Si jamais la justice ne parvenait pas à retrouver l'assassin de votre fils,
l'assassin, je le retrouverai.
C'est des gens de la famille, en tout cas des gens très proches.
Mais pourquoi cette haine ?
La jalousie.
Cette affaire a pris une dimension médiatique considérable.
Elle se joue avec nous, les journalistes.
C'est ça la presse ? M'accuser d'avoir tué mon enfant ?
On est vraiment tout seul alors, c'est ça ?
Je vous inculpe d'assassinat sur votre enfant, Grégory Villemain.
Non, vous savez pas !
Christine Villemain est victime d'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire de ce pays.
Il y a forcément d'autres suspects.
Ça, c'est le seul moyen que j'ai pour venger Grégory.
Il y a un tel manque d'humanité dans cette affaire.
On est assez d'accord avec ça. Guillaume de Tonquédec, qui est votre personnage, le capitaine de gendarmerie Sesma ?
Étienne Sesma, c'est le capitaine de gendarmerie qui a été le premier sur les lieux, qui a donné l'ordre de sortir le corps du petit Grégory des eaux de la Vologne, qui est allé chez les parents annoncer, confirmer l'assassinat de leur enfant. et puis qui a assisté à l'autopsie dans les heures qui ont suivi. Et il a, c'est un personnage qui m'a beaucoup touché, qui touche beaucoup de gens, qui vient du corps de la gendarmerie, donc de l'armée, qui a des valeurs et qui les applique à son travail. C'est l'un des rares personnages à avoir essayé de rester droit dans cet océan de boue humaine, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec toutes les formes qu'a pu prendre cette affaire. Il s'est lui-même retrouvé devant la justice à devoir rendre des comptes. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait sauver le soldat Sesma, parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage, qui a, je crois, fait son travail au nom de l'État et qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Enfin, ça, c'est une position personnelle du comédien sur l'homme qu'il a
incarné. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est intéressant de savoir qu'on dit tout ça, que les comédiens veulent sauver leur personnage. Vous l'avez croisé, vous l'avez rencontré, vous avez lu son livre.
J'ai lu son livre, je l'ai vu dans le documentaire Netflix, j'ai regardé des images d'archives, mais la volonté de la production et du diffuseur TF1, c'était qu'on ne rencontre pas les personnages pour justement garder une neutralité, qu'il n'y ait pas un parti qui soit plus ou mieux représenté qu'un autre. Justement, c'est ce que disait Julien Madon, c'est que la neutralité était très importante dans la façon de le faire. Et si j'avais trouvé, moi, à la lecture des scénarios, que c'était un peu tendancieux ou de parti pris, ou un peu obscène, je ne l'aurais pas fait, honnêtement.
C'est lui, vous l'avez dit, qui a mené toute la première partie de l'enquête sur la mort du petit Grégory. Il a ensuite été évincé par le juge Lambert, et vous dites qu'il a été lâché par sa hiérarchie. De quelle manière? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui?
Alors, pour le coup, c'est lui qui le raconte dans son livre, Les deux affaires Grégory, parce qu'il dit que la première affaire, c'est jusqu'au moment où il a été dessaisi au profit de la police nationale, et puis que la police nationale a fait une seconde enquête très différente et à charge contre la mère. Et lui, il dit qu'il y avait des gens dans sa hiérarchie qui n'avaient pas tellement intérêt à le soutenir parce qu'ils attendaient des promotions, enfin des choses comme ça, qui ne concernaient pas l'affaire. Et donc, il y a une... C'est l'un des grains de sable, des nombreux grains de sable dans cette affaire où j'ai un sentiment, je pense comme beaucoup de gens, d'un immense gâchis. Beaucoup de choses auraient pu être résolues, mais il y a de telles interactions humaines, c'est ça qui m'a passionné, voir comment la justice a pu déraper aussi, parce qu'il y a eu de telles interactions humaines de tous les côtés, que l'affaire est partie vraiment sur le côté de la route.
Julien Madon, c'est aussi ce qui vous a intéressé?
Ce dérapage globalisé?
Je vais dire les choses différemment. Si l'affaire avait été bien traitée, on connaîtrait le coupable, on ne serait pas en train d'en parler autour de ces micros.
Exactement. C'est un échec humain au sens global, c'est-à-dire la justice, les médias, voilà, c'est ça qui a broyé ce couple qui n'a finalement toujours aujourd'hui pas eu droit à la justice.
Mais il y a deux autres choses aussi moi qui m'intéressent beaucoup dans cette affaire, c'est que c'est le mobile. L'affaire est irrésolue à ce jour, mais il y en a d'autres. Et le mobile qui est quand même, comment peut-on assassiner un enfant, l'image de l'innocence par haine de son père, c'est que le mobile est quand même effroyable, et il parle bien de l'humanité, parce que c'est bien des hommes et des femmes, on ne sait pas trop qui, bien sûr, l'a commis, mais c'est bien arrivé. Donc, ce premier mobile, et puis ensuite, l'autre chose qui m'est apparue en regardant la série, et puis en lisant les scénarios, c'est l'extraordinaire histoire d'amour du couple Villemain qui a résisté contre vent et marée, le mot est faible, contre des tempêtes et des ouragans personnels, et qui sont encore ensemble, et qui ont fondé une famille, continuer à vivre, vraiment.
On n'a pas encore parlé du rôle des médias. Il est crucial, j'ai presque envie d'ajouter malheureusement, Culture Média continue. Julien Madon, producteur, Guillaume de Tonquédec, comédien, sont avec nous, donc avec vous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Une affaire française, série de TF1 consacrée à l'affaire Grégory. 6 épisodes, ça démarre ce soir à 21h. La presse est dithyrambique. Le Parisien, vous avez eu le Parisien aujourd'hui?
Oui, le Parisien, très très bon.
Le Monde également, le JDD également. Il y a beaucoup de personnages, Thierry Madon, qui ont réellement existé, évidemment, puisque c'est une fiction du réel. Mais vous avez également créé des personnages, notamment ce qui nous intéresse ici dans Culture Média, les personnages de journalistes. Pour quelle raison? Pour vous fâcher avec personne dans la presse?
Non, c'était l'espace un peu de... C'est le point d'entrée fictionnel dans cette série. C'est-à-dire que c'est le point de vue du spectateur et rentre par des personnages qui sont un peu fictifs.
Oui, mais il y a eu tellement de casseroles accrochées aux gens de la presse. Pourquoi ne pas avoir utilisé un vrai journaliste et en faire un personnage
Il y a des vrais journalistes. Il y a deux personnages qui sont la somme de plusieurs journalistes.
Ouais.
Ça, c'est le petit espace de liberté qu'on s'est autorisé.
C'est une journaliste qui joue la correspondante de France Inter. Ce qui est amusant, c'est que la personne qui était envoyée pour France Inter, c'était Jacques Expert, qui ensuite a écrit des polars. Voulait pas consulter pour écrire le scénario, Jacques Expert.
Non.
Il a suivi cette affaire. Alors, je voudrais qu'on entende un extrait. C'est l'avocat du couple Villemain, qui est ici incarné par Gérard Jugnot, qui demande justement à voir cette journaliste radio, Laurence Arnay, car très rapidement se pose une question, la question du traitement médiatique de l'affaire.
J'ai accepté de partager avec vous certaines choses. Attention, Ça ne signifie pas que je doive aller contre l'intérêt de mes clients.
Qu'est-ce qui a changé depuis la gare ?
Certains de vos collègues ne lésinent pas sur ce qu'on pourrait appeler la multiplication des points de vue. Bézina se fait entendre sur RTL, il écrit dans François, enfin, je ne vais pas vous faire la liste. J'ai décidé d'en faire autant. J'ai mes entrées chez Europe 1, vous représentez France Inter. La radio, c'est une voix qui revient chaque jour, une sorte de rendez-vous familier, non ?
Donc on va pouvoir collaborer ?
Vous ferez si en temps utile. Pour l'instant, j'ai préféré miser sur autre chose. Vous connaissez le slogan de nos amis. Le poids des mots, le choc des photos. Les gens sont entrés dans l'intimité de Jean-Marie et Christine Vima.
Mais justement, vous pensez pas que ça puisse leur nuire, cet étalage ? Créer l'effet inverse ?
Vous verrez. Les choses vont bouger.
On pense à Jean Kerr, qui était le journaliste pour Paris Match. Vous voulez dire quelque chose ?
Non, c'est formidable que tout ce qui s'est passé en sous-main, c'est cette interview, ces échanges d'infos, ces tractations, le côté financier aussi, et puis la recherche du scoop, c'est qui a broyé cette famille et la machine judiciaire, qui a orienté l'enquête.
Il y a des journalistes qui a des
seins. Je pense qu'il y a un avant et un après pour la presse, j'espère, sur la moralisation de la vie médiatique. C'est... Est-ce qu'on peut tout montrer ? Qu'est-ce qu'on peut montrer ?
Certains journalistes ont sacrifié la vérification de l'info pour le scoop. C'est ça qui a changé.
Je vais citer personne parce que les familles sont là, mais il y a quand même des journalistes qui ont acheté des faux jouets que Grégory aurait pu recevoir à Noël, qui n'ont absolument pas été achetés par la famille, mais qui ont été achetés par des journalistes. Ouais. Et pour faire une photo ensuite. Et alors une image qui est absolument saisissante, que les gens vont voir ce soir s'ils regardent la série sur TF1, c'est la presse à l'enterrement. Parce que les images que vous montrez, on a l'impression que c'est une mascarade. Pas du tout. Ça s'est réellement passé comme ça.
C'est la reconstitution exacte de ce qui s'est passé.
Alors, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Ce qui est frappant, les ressemblances sont saisissantes. Je trouve que, vous allez me dire, moi, je souffre de prosopagnosie, mais quand même, Blandine Belavoir et Guillaume Gouy ressemblent beaucoup aux époux Villemain. En revanche, le juge Lambert, Laurent Stocker et le policier incarné par vous, ils sont un peu plus vieux que dans la réalité.
Oui, d'ailleurs, Julien peut en témoigner. J'avais demandé, j'ai joué contre mon camp parce que j'adorais vraiment l'écriture et je voulais le faire. Et j'adore aussi Christophe Lamotte qui a fait une réalisation très délicate et il a mis sa caméra au bon endroit pour cette affaire si compliquée. Je leur ai dit, mais est-ce que je ne suis pas trop vieux pour le rôle ? Parce que c'est une histoire de jeunes. C'est ça qui m'avait frappé. Les couples Villemain viennent d'avoir un enfant. Enfin, il a 4 ans, mais c'est un jeune couple. La famille, le juge est très jeune. Le gendarme est très jeune aussi. Et bon, ils ont dit que ce n'était pas si important que ça sur ce personnage-là et qu'ils cherchaient plutôt une couleur d'interprétation. Voilà, enfin, si je ne trahis pas, Julien, vos décisions.
Non, ouais. C'est ça.
Il y a un avocat qui a relu tous les épisodes.
Oui,
comment s'est passé juridiquement ? Vous êtes blindé, comme on dit dans le métier ?
Oui, il y a un avocat qui a relu les épisodes, qui a relu les scénarios, qui a vu les épisodes et qui nous a rassurés.
Il y a un début de polémique, on est en France, vous savez, dans le JDD, on apprend que les époux Villemain sont indignés contre la série, dont je cite, « Ils ont découvert l'existence par un appel à la figuration sur Internet. D'abord, est-ce que vous confirmez ? Et question, pourquoi ne les avez-vous pas prévenus ?»
En fait, je les ai prévenus par le biais d'un avocat, qui est un de leurs avocats. Et il s'avère que, je les ai prévenus avant qu'on commence le tournage, et il s'avère qu'effectivement, ils avaient eu vent de l'info par une annonce sur Internet. C'est malheureux, c'est des choses qu'on essaie d'éviter. Quand on fait des sujets comme ça, on demande au directeur de casting de ne pas faire de publication. C'est arrivé, voilà.
Et ce choix de ne pas tourner à l'Épanche sur Vologne, c'était pas possible ou c'était votre choix ? C'était un choix de la production ou de la chaîne ?
C'est deux choses. C'est, d'un point de vue production, c'était très compliqué. Parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour accueillir des tournages. Et par ailleurs, après ce qui s'était passé, c'est pas un endroit où on a envie de raviver rouvrir des plaies. Et je ne sais pas si vous avez vu que quand Netflix a tourné son documentaire, il y a un drone qui s'est fait descendre. Donc je pense que voilà, c'était pas plus mal.
Sauvons les drones. Julien, Guillaume de Tonquédec, pardon, prochain rôle ? Ça sera un salaud ou un con ?
Un salaud dans Germinal. Monsieur Hennebeau, le directeur de la mine. Personnage passionnant et très très belle série aussi.
Je veux dire pourquoi je pose cette question. Parce que vous avez dit à La Provence, les salauds et les cons sont les meilleurs personnages.
Bien sûr.
J'ai vraiment envie d'aller de plus en plus vers eux. Ouais. Mais vous n'êtes ni un salaud ni un con dans le rôle du gendarme.
Non, c'est un personnage exemplaire. Je trouve que c'est un personnage qui fait du bien en ce moment, ouais. Vraiment.
Ça sera ce soir. Guillaume de Tonquédec, merci beaucoup. Julien Madon, merci beaucoup. Une affaire française, série de TF1 consacrée à l'affaire Grégory. C'est ce soir à 21h sur La Une, je l'ai dit. Culture Média.
continue. Après le rappel des titres de 10h, Bruno Donnet pour ses télescopages. Vous allez voir, ça se télescope entre les deux principaux JT. Notre invitée, c'est l'humoriste et comédienne Camille Chamou pour son seul en scène, Le Temps de Vivre. Elle a juste le temps de se préparer. Et puis dans les indispensables, Stéphanie Loire pour parler de musique. Et Guillaume Benesch qui va allier la littérature jeunesse et la sexualité. Enfin, pour clore l'émission, Marc-Antoine Lebray. Quel mélange, c'est ça Culture Média. À tout de suite.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.